Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Howard Phillips Lovecraft, 1890-1937. En ce dernier week-end avant la rentrée sur France Culture, Une vie, une œuvre vous entraîne sur les chemins buissonniers de la littérature fantastique et de science-fiction, aux côtés de deux de ses plus grands noms, Lovecraft et Philip K. Dick. Aujourd'hui donc, descendez dans les entrailles de la Terre, que dis-je, dans les abysses, explorez les confins d'une mythologie nébuleuse et menaçante à la rencontre de Lovecraft, le reclus de Providence, à la vie aussi solitaire que son imaginaire était surpeuplé de créatures terrifiantes. Howard Phillips Lovecraft, Lettre de Providence, un documentaire de Lydia Benitzrak et Nathalie Triandafilides.
Shub-Niggurath, la chèvre noire aux mille chevrons. Nyarlathotep, le chaos rampant, hurleur de la nuit, habitant de l'ombre. Le puissant messager, l'aveugle sans visage, père des millions de favoris. Umrattaville, le plus ancien. Lui dont la vie a été prolongée, le guide et gardien de la porte. Yog-Sothoth, de l'au-delà, le tout en un et l'un en tout. Tsatogwa, la chose batracienne. Azathoth, seigneur de toutes choses. Cthulhu, celui qui viendra des abysses d'océan, le seigneur d'Eurliet.
Bah, je crois qu'il y a déjà cette mythologie elle-même qui provoque d'autant plus de fascination qu'elle n'est révélée en général que par petits morceaux. Si on veut en avoir une idée complète, il faut tout lire. Mais d'un autre côté, mon point de vue personnel est que c'est mieux de ne pas trop s'en faire une idée complète et de savourer le plaisir de la découverte qu'il y a dans chaque histoire et la révélation fragmentaire que chaque histoire peut donner.
Monsieur. Une vie, une œuvre. Monsieur. Howard Phillips Lovecraft, Lettre de Providence.
Écoutez-moi.
Une émission de Lydia Benitzrak.
J'ai besoin de votre aide. Ici, personne ne veut m'écouter.
Quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ?
Ne posez pas de questions, monsieur. Vous comprendrez tout ce soir, 11h à l'opéra. J'y serai. C'est très important. Il y va de mon existence.
Bon, évidemment, les lectures psychanalytiques de Café du Commerce fonctionnent parfaitement avec Lovecraft. Elles fonctionnent même beaucoup trop bien dès qu'il est question de répugnance, de choses gluantes, qu'on ne veut pas manipuler, etc. Il y en a trop. Le problème, c'est que ça marche un petit peu trop bien. Plus subtiles sont des interprétations sur le fait que, à travers les textes de Lovecraft, de manière pas forcément consciente, Lovecraft, dans certains textes, montre son inquiétude devant la dégradation économique de la classe sociale à laquelle il appartient.
Vous comprendrez tout ce soir. Il y va de mon existence.
À mon sens, la plus grande faveur que le ciel nous ait accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix d'un nouvel âge de ténèbres.
Ainsi s'ouvrait en 1926 l'appel de Cthulhu. Faut-il être épris de sensations de vertige pour oser s'aventurer dans le sillage de Lovecraft pour le suivre jusqu'au bout de ses flamboyantes ténèbres ? Quel effroi hantait les nuits de l'écrivain américain pour ne rêver que de dégénérescence physique et mentale, de destin qui ne se contente pas d'être aveugle mais qui en veut à l'homme. Son hostilité n'est que trop naturelle, incarnée par un dieu imbécile et fou qui règne au milieu du chaos central de notre galaxie, envoyant son messager, le chaos rampant. On ne peut lui échapper qu'en se réveillant ou en mourant. Le génie de sa cosmogonie conjecturale semble exercer une fascination hypnotique nous obligeant à fixer en face la grandeur de sa vision cosmique. Dans la couleur tombée du ciel, celui qui chuchotait dans les ténèbres, les montagnes hallucinées ou encore dans l'ombre venue du temps, tout gravite autour de civilisations fabuleuses, submergées puis réapparues, plus avancées que la nôtre, fondées par des extraterrestres ayant laissé des marques cyclopéennes dans notre culture. Une quête menée jusqu'au fond de la sombre crypte cachée sous la maison de la radio.
Je ne peux penser aux abîmes marins sans frissonner à l'idée des choses sans nom qui, peut-être en ce moment même, rampent et sinuent sur des fonds limoneux, adorent leurs antiques idoles de pierre et sculptent leurs détestables ressemblances sur des obélisques sous-marins de granit imbibés d'eau. Je songe qu'elles pourraient un jour émerger des lames pour entraîner de leurs griffes puantes les restes d'une humanité chétive, épuisée par la guerre, qu'un jour les terres couleront à pic et que le sol noir de l'océan s'élèvera dans un pandémonium universel.
Né le 20 août 1890 à Providence, comté de Rhode Island. Ascendance anglaise. Son père meurt de folie à l'asile. Sa mère, névrosée, l'isole du monde extérieur pour le protéger. Peur maladive du froid, de l'eau et des étrangers de couleur. Écrit 100 000 lettres à des correspondants qu'il ne rencontrera jamais. Des contes fantastiques qu'il publia avec succès. Meurt pauvre le 15 mars 1937 d'un cancer de l'intestin, entouré de quelques disciples fidèles et d'une femme qui vainement tenta de l'aimer.
Il joue dans sa correspondance au grand solitaire, il se vieillit.
Joseph Altérac.
Qui parle du vieux gentleman alors que c'est quelqu'un qui n'a pas 30 ans dans les lettres en question. Donc c'est vrai que Lovecraft participe à cette légende. Il y a certaines photographies où on le voit en train de rigoler. J'en ai une dans un recueil américain où on voit Lovecraft déguisé en cow-boy et en porteur d'eau. Enfin, on n'est pas du tout dans l'image de ce solitaire qui ne veut voir personne. Lovecraft est extrêmement sociable.
En janvier 1896, la mort de ma grand-mère plongea la famille dans une affliction dont elle ne se releva jamais complètement. Les vêtements noirs de ma mère et de mes tantes me terrifiaient et me faisaient horreur à un tel point que j'épinglais subrepticement à leurs jupes des bouts de tissu ou de papier de couleur vive dans le seul but de me remonter le moral. Elles devaient examiner soigneusement leurs vêtements avant de recevoir des visiteurs ou de sortir. Et c'est alors que ma bonne humeur antérieure se trouva étouffée. Je me mis à faire des cauchemars hideux peuplés de choses que j'appelais les maigres bêtes de la nuit. Je les dessinais à mon réveil. Vous remarquerez que je n'ai fait aucune allusion à des amis d'enfance ou à des compagnons de jeu, je n'en avais aucun. Les enfants que je connaissais me trouvaient antipathiques et je le leur rendais bien. J'étais habitué à la compagnie et à la conversation des adultes et, malgré le fait que je me trouvais honteusement terne à côté de mes aînés, je n'avais rien de commun avec la vie des enfants. Leur turbulence et leurs cris me déroutaient. Je détestais la seule idée de jouer et de danser. Quant à mes moments de détente, je désirais toujours qu'ils aient un thème.
J'ai découvert que Lovecraft aurait pu avoir une vie sexuelle tout à fait normale, d'une part,
Jackie Ferjou.
Mais que par une sorte de maladie, qui n'est pas une maladie organique, hein, qui est une maladie plutôt psychique, il avait converti cette sexualité, il l'avait transférée sur autre chose, et cette autre chose, c'était l'amour de Providence, c'est-à-dire de la ville natale où il était né. Et ce qui explique d'ailleurs son retour, il faut lire les 2-3 lettres qu'il consacre au retour à Providence. On a l'impression vraiment qu'il rejoint un Eldorado qu'il avait perdu, quoi.
Providence. à l'endroit où la baie et la rivière mêlent leurs eaux harmonieusement, où s'étendent les coteaux boisés, les flèches de Providence se dressent vers les cieux antiques. Dans les sentiers étroits et sinueux qui grimpent en haut des pentes et des crêtes, on peut encore trouver la magie tranquille des jours oubliés. Le miroitement d'une imposte, le tintement d'un heurtoir, la vision fugitive d'une vieille maison de briques, ce sont les images et les sons du passé où s'attarde le souvenir. Une volée de marches à la rampe de fer, un beffroi élevé, la flèche d'un clocher pâle et délicatement ciselé, le muret d'un jardin couvert de mousse, un cimetière caché, preuve du passage éphémère de l'homme, un quai pourrissant où des toits en pente font le guet, dominant la mer. Une petite place et une promenade dont les murs ont contemplé plus de 15 décennies, abrités dans un berceau de verdure, des chemins pavés et dédaignés par la foule, des ponts de pierre enjambant des ruisseaux languides, des maisons perchées sur la colline, et des ruelles emplies de mystères et de rêves propices à la méditation. Les degrés escarpés d'un passage enfoui parmi les plantes où des fenêtres à petits carreaux brillent au crépuscule sur un morceau de champ laissé en contrebas, par hasard. Providence, ma ville, quelles armées aériennes font encore tourner tes girouettes dorées, quel vent ténu et quel fantôme gris peuple toujours tes antiques allées. Les carillons du soir, comme jadis au-dessus de ta vallée, résonnent, et tes fondateurs sévères dans leur tombe rendent bienheureux ton sol sacré.
Oui, il est certain que Lovecraft a été très influencé.
Jacques Bergier, 1969.
Par sa revue favorite qui était Argosy, qui était un hebdomadaire américain, qui publiait évidemment énormément de romans avec un certain fatalisme, avec une société écrasante, avec des sociétés secrètes toutes puissantes. Et ça, je pense, on a retracé plusieurs fois des filiations directes de Lovecraft en passant par Beers, par Chambers. Il n'en reste pas moins que son livre favori était Le Gouffre de la Lune des Mérites, qui est un livre essentiellement scientifique, et que l'univers où il se place, et il le dit à de nombreuses reprises, c'est l'univers qui existe effectivement dès la physique moderne, la relativité, c'est-à-dire l'univers où il n'y a ni espace ni temps, il y a des intervalles, il y a un continu, l'espace et le temps étant des illusions locales. Et Lovecraft écrit par les portes de la clé d'argent, c'est le continu aux dimensions multiples qui est réel et le continu à trois dimensions qui n'est qu'illusion. C'est un écho direct du livre d'Hermann Weyl, Théorie de la relativité. C'est un écho direct d'Einstein lui-même. C'est une conception qui ne pouvait naître qu'après la géométrie non euclidienne de Riemann et donc essentiellement moderne. Je crois qu'on sous-estime énormément le modernisme de Lovecraft.
Une question qui peut sembler absurde, Michel Meurger, ce serait celle du rapport au réel de Lovecraft.
Je dirais que Lovecraft, pour moi, il s'insère dans un courant qu'on peut appeler la Weird Science. À l'époque où Lovecraft publiait ses textes dans Weird Tales, d'autres auteurs, moins connus aujourd'hui, publiaient des textes qui, disons, n'étaient pas si loin que ça de ce qu'on peut appeler la créativité lovecraftienne, à savoir cette idée de super-civilisations non humaines qui nous ont précédés, l'idée de lutte pour la vie entre notre société et ces sociétés non humaines, l'idée aussi d'un espèce de plan cosmique de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut parler même d'antéhistoire plutôt que de préhistoire. Alors là, se développe principalement sous la plume d'un écrivain de science-fiction qui faisait là ses premières armes, qui s'appelle Edmond Hamilton, où il est question de tout ça. Il est question de crapauds intelligents, il est question d'insectes, il est question de pieuvres intelligentes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà chez Hamilton, ces super-sociétés non humaines se retrouvent chez les animaux dits inférieurs, c'est-à-dire essentiellement des batraciens, des insectes, il y a les tortues aussi, il y a les créatures qu'on considère en fait nous qui venons du point de vue des mammifères, comme des créatures inférieures. Et ça, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que j'ai pu retracer, à mon avis, le point de départ de ce choix aux alentours de 1925, donc un an plus tôt. En 1925, il y a un procès qui met en branle tous les États-Unis parce que ce sera le premier procès radiodiffusé dans tous les États-Unis. C'est le fameux procès du singe de Dayton, un procès entre les représentants de l'évolutionnisme et les représentants du fondamentalisme chrétien qui, eux, développent, comme vous le savez, une idée, l'homme a été créé par Dieu, donc qui s'oppose de façon violente au darwinisme et à l'évolutionnisme. Il y a eu un procès qui a eu un retentissement mondial, qui est le procès du singe. Donc, on l'appelle le procès du singe parce qu'en fait, est-ce que l'homme descend des simiens primitifs ou est-ce qu'en fait, il a été créé immédiatement par Dieu ? Et je pense que les membres de ce courant de Weird Science ont pris directement position contre ces fondamentalistes en développant un point de vue darwinien, en montrant donc, mais de façon utopique, qu'ils ne croyaient pas du tout à ces fictions, mais si vous voulez, ils prennent ce qu'on peut appeler des exemplats, c'est-à-dire qu'ils choisissent des thèmes de fiction, ils les développent jusqu'aux extrêmes conséquences. Et finalement, l'orgueil humain, basé essentiellement sur une interprétation judéo-chrétienne de la création, l'idée qu'en fait l'homme est quelque chose d'exceptionnel, qu'il a été créé égal à Dieu et que c'est uniquement parce qu'il y a eu la chute, qu'il a perdu donc ses pouvoirs mais qu'il en garde quand même quelques-uns et qu'il est supérieur aux animaux, tout ça est battu en brèche par ce courant de Weird Science. Et on peut considérer que dans les plus grands textes lovecraftiens comme « Aux montagnes hallucinées » ou « Dans l'abîme du temps », ce courant trouve son couronnement avec des morphologies de créatures qui sont censées avoir vécu bien avant les premiers singes et qui sont extrêmement supérieures à tout ce qui a été créé depuis, y compris à la science de l'homme moderne. Donc ce sont des créatures qui sont des créatures qui se sont développées sur le plan scientifique, qui disposent d'un savoir gigantesque et ça ne les a pas empêchées d'être détruites. Alors en général, par des cataclysmes, que ce soit par exemple l'ensablement de certaines zones de l'Afrique, que ce soit les grandes glaciations. En général, ce n'est pas des combats contre d'autres sociétés supérieures, mais c'est en fait l'usure, on peut dire, du temps. Donc je crois qu'en fait, dans la science-fiction des années 20 et 30, il y a encore énormément à découvrir, et notamment des courants philosophiques, des idées qui vont beaucoup plus loin que de simples divertissements.
Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture, des temps disparus et de la désolation. Le fantasme putride et gras dégouture d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde, et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée, où transparaissaient des os, comme un grotesque et ricanement travesti de la forme humaine. Il y avait dans cet appareil pourrissant et décomposé une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus.
1969, Jacques Bergier s'entretient avec Raymond Bellour et Michel Zerafa.
Lovecraft est un matérialiste parfaitement endurci. Il veut bien à la rigueur montrer comme dans la tombe un cadavre animé, mais jamais un véritable mort. Il ne croit aucune espèce d'existence de l'âme. Et c'est pour ça que, alors que les effets de Wells sont des effets spirituels, des effets qui ne pouvaient être obtenus que par quelqu'un qui croyait, comme il le disait lui-même, en Dieu, l'invisible roi et en une âme immortelle, autant les effets de Lovecraft, c'est l'effet que j'ai ressenti en lisant en 1938 les premiers comptes rendus de la fission de l'uranium et en me disant « c'est peut-être la fin, les bombes atomiques tomberont avant 10 ans ». C'est l'effet qu'on ressent chez Lovecraft. Là, c'est tout à fait nouveau, parce que les personnages de Conan Doyle ou de Wells, ce sont des artisans, ce ne sont pas des savants. Ils ne sont pas en rapport avec l'université, ils ne font pas la littérature d'un sujet. Les personnages de Lovecraft, qu'ils soient condamnés ou qu'ils échappent comme Villemars dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, sont des vrais savants et des vrais chercheurs qui savent faire une bibliographie. Ils ne disposent pas d'ordinateur, mais ils ont très bonne mémoire et ils savent rapprocher des faits, et ces rapprochements peuvent être mortels. Et ça, c'est tout à fait nouveau et très moderne. C'est des rapprochements mortels de ce genre que sont nés les bombes thermonucléaires qui pèsent sur nos têtes. Et c'est pour ça que j'ai toujours prétendu que Lovecraft n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. L'univers astronomique existe, la menace de la science dont il parlait en 1924 dans l'appel de Cthulhu, elle est maintenant sur nous. Quand il dit que la science, quand elle aura rapproché un certain nombre d'éléments épars, nous détruira, nous y sommes. Ce n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. Ce qu'il raconte est vrai, ce qui fait une très grande différence avec l'imagination, avec la fuite.
Oui, mais enfin, tout dépend de ce qu'on entend par réalité. Enfin, évidemment, tout est réel chez Lovecraft parce que le fantastique pour Lovecraft est réel. Enfin, je crois que c'est sa vision du monde. Enfin, évidemment, tout est réel pour lui, il n'y a pas de problème.
Pas pour lui, pour nous aussi.
Et pour nous aussi,
ce qu'il raconte est vrai, c'est ça la différence avec les autres.
Oui. Ce que racontait Jules Verne a fini par aussi paraître vrai en ce sens-là, oui ou non?
Non, c'était en grande partie scientifiquement faux, ça tenait pas debout et de plus c'était infantile. La vision du monde et de la science de Lovecraft n'est pas infantile.
Bon, je veux bien, disons qu'elle est, j'admets qu'elle soit plus adulte.
Au début, Lovecraft se fait essentiellement référence
Gilles Ménégaldo.
Dans ses lettres, par exemple, de sa correspondance. Il dit mon maître à écrire, c'est Poe, mon dieu de fiction, littéralement, c'est Edgar Poe. Et il y a toute une série de textes qui sont sous influence poésque. Il le reconnaît lui-même. Hein. Il dit il y a mes textes à la Poe, mes textes à la Dansani, qui est un auteur anglo-irlandais, plutôt axé sur le merveilleux, la fantaisie ou la fantaisie macabre. Et il y a les textes à la Arthur Machen, donc, qui est un auteur gallois, qui est également spécialiste de l'horreur ou de la terreur, et notamment de la terreur qui concerne le corps, l'organique, la décomposition des corps, etc., entre autres choses, hein, mais qui est aussi très féru de folklore gallois, évidemment, je parle d'Arthur Machen. Donc il se revendique d'ailleurs une sorte de filiation, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'écrivain, avec les écrivains du XVIIIe.
Combien de pauvres types avez-vous ensorcelés avec votre histoire? C'est donc ça que vous appelez les puissances de la nuit? C'est seulement le souvenir qui vous ronge.
Mais vous ne comprenez rien. Il ne s'agit pas de souvenirs.
Arrêtez, vous me faites mal.
Excusez-moi. J'ai perdu la tête. Mais pourtant, je vous jure que je les ai vus. Non, ne partez pas.
C'est un médecin qu'il vous faut.
Mais ne soyez pas stupide. Je vais tout vous expliquer.
Alors, vous dites que ces grands anciens ont disparu. Ont-ils vraiment disparu, Michel Meurger?
Les anciens ont disparu, ce qui a subsisté, là c'est un apport proprement lovecraftien, je dirais, c'est une des originalités de Lovecraft, l'idée d'une sorte de tradition, mais tradition plus ou moins estompée, millénaire, qui se serait transmise dans certains groupes. On la retrouve dès la nouvelle qui lance un peu ce genre lovecraftien, qui est l'appel de Cthulhu, qui date de 1925-1926. On trouve cette idée... Donc d'une sorte de transmission à la fois orale autour de certaines idoles représentant ce grand prêtre des anciens Cthulhu et aussi autour du fameux livre qu'il a créé, même si beaucoup de gens pensent qu'il a existé, le fameux Necronomicon. Donc vous avez cette idée d'une sorte de transmission. Alors il faut insister sur quelque chose d'important. Lovecraft a puisé largement dans des courants d'idées, mais les a adaptés. Par exemple, l'idée d'une tradition primordiale, on la retrouve chez les ésotéristes, on la retrouve par exemple chez les théosophes, aussi l'idée d'énormes civilisations qui nous auraient précédés, les Atlantes, les Muviens. Mais la différence de Lovecraft et la différence des auteurs du courant de Weird Science, c'est que pour eux, ce ne sont pas des civilisations humaines. Alors, Lovecraft puise dans ce fond, mais en le détournant et en l'inversant. C'est-à-dire que les grands anciens, la grande race dans l'abîme du temps, toutes ces super-civilisations n'ont aucun rapport avec nous, ou alors le rapport qu'elles ont, c'est comme dans le cas des grands anciens, ils nous ont créés, mais par amusement. Un peu comme un savant fait une expérience dans un laboratoire, par une parmi tant d'autres, et puis finalement la laisse échapper, c'est pas important. Donc l'homme ne représente plus grand-chose dans le cosmos lovecraftien, c'est une civilisation parmi d'autres, et là encore, on retrouve ce relativisme anthropologique qui, à mon avis, provient directement de l'époque. À ça, il faut ajouter quelque chose de très important, c'est que dans les années 20, les grandes découvertes archéologiques et paléontologiques s'accumulent. N'oublions pas que c'est l'époque où on découvre Toutankhamon et toutes les merveilles enfouies avec lui. C'est l'époque où il y a la grande enquête donc, du Musée des sciences de New York dans le désert de Gobi, à la recherche du berceau de l'humanité. Finalement, ils ne trouvent pas le berceau de l'humanité, mais ils trouvent des œufs de dinosaures. Donc vous imaginez le succès qu'il peut y avoir dans les gazettes à l'époque. Donc, le courant de Weird Science et Lovecraft se nourrissent de toutes ces inventions, de toutes ces découvertes. C'est un moment de grand bouillonnement intellectuel, et tous ces auteurs mettent ça à profit pour la fiction.
Le narrateur, alors soit effectivement tente de se remémorer une expérience pour essayer de sortir justement de cette impasse, de cette aporie, etc., soit au contraire est réticent. Et donc c'est dans ce rapport entre réticence et révélation que se construit le texte, effectivement. Bon, ça c'est du côté du narrateur. Donc ce narrateur va effectivement se raccrocher à la raison, hein, d'où l'utilisation effectivement d'hypothèses rationalistes, d'où l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler un métadiscours scientifique, enfin bon, simplement l'utilisation de vocables scientifiques précis, notamment encore une fois dans les grands textes que je qualifie comme conjecturaux, comme Les montagnes hallucinées ou Dans l'abîme du temps, The Shadow Out of Time. Le titre original, c'est L'ombre venue du temps, alors que le texte français parle de Dans l'abîme du temps. Donc la métaphore n'est pas du tout la même. En tout cas, donc, ce narrateur se raccroche à ce qu'il connaît, c'est-à-dire cet univers rationnel, et petit à petit, il va être confronté, je pense pour appeler une sorte de paradigme à certains égards, c'est-à-dire que son discours ne correspond plus à ce qu'il essaye de décrire. D'où alors deux sortes de choses qui se produisent et qui sont générateurs d'une écriture, puisque le narrateur est aussi, à certains égards, l'écrivain, c'est-à-dire qu'il met en scène ce qu'il a vécu, et il le met en scène avec une certaine forme de dramatisation, de théâtralisation, mais aussi une écriture. Et donc, on a ce qu'on pourra faire, une sorte de dialogisme bakhtinien. D'un côté, une écriture rationaliste fondée, effectivement, sur des repères extrêmement précis. Et d'un autre côté, une sorte de discours hallucinatoire qui tente de cerner ce qui échappe, hein, ce déjà-là qui échappe. Et donc, qui passe, effectivement, par ce qu'on appelait le style hyperbolique de Lovecraft, mais aussi par une technique, alors là, qui est peut-être un peu plus précise sur un plan formel, ce qu'on pourrait appeler la pseudo-prétérition, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas dire et on dit quand même. Et donc on insiste sur l'incapacité du langage à décrire, sur le fait que finalement, ce que vous disiez justement, ce qu'on découvre petit à petit, c'est au-delà du langage, ou en deçà du langage d'ailleurs. Donc Lovecraft utilise cette technique, enfin fait parler son narrateur en termes effectivement d'une cascade adjectivale qui décrit, où des termes sont presque interchangeables. Quand on dit indicible, innommable, indescriptible, c'est la même chose. Donc ce qui compte, c'est l'effet produit, une sorte d'effet presque, je dirais, hypnotique, produit par cette écriture-là. Et alors après, ça se complexifie nettement avec, par exemple, l'appel de Cthulhu, qui est peut-être un des textes emblématiques sur ce plan-là, où on va avoir toute une série de témoignages qui se recoupent plus ou moins, qui se complètent, parfois qui se contredisent, et qui permettent à Lovecraft d'avoir un style qu'on pourrait qualifier presque de documentaire, ou journalistique, où il va intégrer des coupures de presse, où il va intégrer des rapports scientifiques, etc. Et ceci étant associé à des témoignages de première main, des témoignages de seconde main, des témoignages de plus en plus indirects, de plus en plus lointains, qui finissent par construire un univers qui, justement, perd un petit peu de sa lisibilité, devient opaque, et donc, évidemment, permet d'alimenter, de nourrir la légende et le mythe. C'est pour ça que Lovecraft lui-même est devenu une sorte de mythe.
À Reinhard Kleiner, Theobald Manor, 11 juin 1920. Vénéré Bolingbroke, votre récente indifférence aux idées cosmiques me plonge dans un réel embarras. Nous savons naturellement qu'il n'y a pas de vie après la mort, car la vie et la pensée sont propres aux organismes matériels complexes. Mais autour de nous s'étend un espace illimité plein d'autres mondes, un espace à l'intérieur duquel nous ne sommes, pour ainsi dire, rien. Et les questions gigantesques qu'il suscite soumettent l'esprit humain à un martèlement désespéré. Ce que je ne peux comprendre, c'est comment votre imagination peut ne pas réagir devant ces gouffres mystérieux. Comment vous pouvez échapper à la curiosité brûlante d'un enfant près d'une porte presque close, à travers les fentes de laquelle viennent des bruits étrangement merveilleux et d'un autre monde, et des lambeaux de vision qui suggèrent des choses impensables. Comment, après ces terribles aperçus, vous pouvez encore rester indifférent aux suggestions d'un autre monde ? Comment vous pouvez encore prendre au sérieux le minuscule genre humain, ses affaires et ses désirs? Je trouve cela réellement difficile à comprendre. Ma seule solution, c'est qu'en vous, l'émotion remplace l'imagination. Que le développement d'une sensibilité aiguë, qui chez le philosophe affecte les fonctions imaginatives et spéculatives, chez le poète affecte ces simples centres des ganglions nerveux qui donnent naissance aux émotions des relations humaines. Vous regardez à travers un microscope, moi à travers un télescope. Vous tendez à la subjectivité, moi à l'objectivité. Votre étalon de valeur de base est l'homme. Le mien est l'infinité et l'éternité.
Lovecraft aime bien suggérer plutôt que décrire réellement. Encore que dans pas mal de ses textes, Lovecraft se livre à des descriptions extrêmement précises. Si l'on prend les montagnes hallucinées, par exemple, dans la description des vestiges d'une formidable civilisation au pôle sud, cette description, on l'a en long, en large et en travers. On a l'histoire de la civilisation, la manière dont vivaient ces formidables extraterrestres qui s'étaient installés sur Terre il y a des millions d'années, leur évolution, des considérations sur leur architecture, des considérations sur leur description physique. Maintenant, c'est Pierre Versin, l'auteur de l'encyclopédie de la science-fiction et de l'utopie, qui avait eu une réflexion à propos de Lovecraft. Il disait que ce qui lui paraissait assez curieux, c'est que Lovecraft donnait l'impression d'être quelqu'un qui s'effraie en découvrant des articles du dictionnaire Larousse. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand on lit les descriptions précises de Lovecraft, on se demande un peu pourquoi la chose qui est décrite est censée être si horrible. Lorsque Lovecraft les décrit, eh bien, l'idée de terreur, l'idée d'horreur, l'idée d'indescriptible, par définition, dès qu'on se met à la décrire, cette idée disparaît. Malgré cette faiblesse, toute la montée que fabrique Lovecraft pour amener le lecteur au climax, toute la montée est généralement construite de manière extrêmement efficace et peut placer le lecteur dans un état d'angoisse, ce serait beaucoup dire, mais disons dans un état d'inquiétude.
Reprenons le cauchemar d'Innsmouth. Vous avez le narrateur qui finit par découvrir qu'il est l'enfant des hommes-poissons d'Innsmouth. C'est bien l'exemple que vous avez choisi. C'est la découverte de sa propre vérité, mais là encore, ce n'est pas sa vérité individuelle. C'est-à-dire que là encore, l'individu retrouve le collectif. Cette quête au départ individuelle du narrateur débouche sur la reconnaissance, cauchemardesque d'ailleurs, de sa consanguinité avec les hommes-poissons d'Innsmouth. Donc là encore, vous voyez, moi je dirais c'est la quête des origines, des racines, mais des racines collectives. Alors, il faut effectivement, je pense de façon très sérieuse et très décidée, condamner son racisme, je l'ai fait à travers mes textes, il faut le faire, il faut le répéter. Mais d'autre part, il faut essayer de concevoir dans quel contexte sociopolitique ça s'insère.
Alors là, Michel Morget, vous me tendez une perche pour parler de la biographie de Michel Houellebecq, qui n'en est pas une, puisqu'en fait, c'est une sorte de roman dont le héros serait Lovecraft, mais c'est du Houellebecq, évidemment.
C'est du Lovecrafto-Houellebecq. De toute façon, Houellebecq n'a jamais rien écrit qui ne soit du Houellebecq. Et je dois dire que c'est la différence avec Lovecraft, parce qu'au fond, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Lovecraft, si vous me demandez, au fond, si vous vouliez un peu résumer qu'est-ce qui vous plaît chez Lovecraft, je dirais justement, il ne nous parle pas de nous en tant qu'individus. Il s'adresse à la collectivité humaine, et ça, une des raisons, et là, ça vient sans doute de ses positions sociales et politiques, Lovecraft était ce qu'on peut appeler un communautariste, c'est-à-dire qu'en fait, toute sa vie, il a essayé de développer un point de vue basé sur sa communauté de Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que j'ai créé d'ailleurs un terme, le régionalisme cosmique, pour rendre compte de la spécificité de sa créativité. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que c'est un régionalisme, donc c'est essentiellement basé sur la Nouvelle-Angleterre. Il invente des villes universitaires qui n'ont jamais existé, comme par exemple Arkham ou Innsmouth, etc., mais qui en fait recouvrent des réalités de Nouvelle-Angleterre. Et partant de ce point de vue régional, il montre que dans ce petit monde régional, eh bien, ça insère toute une perspective cosmique, des rapports avec d'autres dimensions, avec d'autres planètes. Donc finalement, il fait exactement le contraire d'un écrivain qui développe une perspective universaliste. Il ne parle pas de l'universel pour déboucher sur le régional, il parle de l'inverse. Et avec, effectivement, la tâche obscure, la tâche aveugle, qui est effectivement son racisme, qui est extrêmement développé au début, et puis commence petit à petit à mettre de l'eau dans son vin jusqu'à la fin de sa vie, où là, il en arrive à des perspectives quasi-socialistes. Vous savez qu'il adhère plus ou moins au New Deal de Roosevelt, donc il a changé, et on le souhaite, on est très heureux. Mais je veux dire, il faut bien le comprendre pour voir qu'il y a un rapport étroit entre son type de créativité et son type de position éthique et politique.
Quant à la clé dont Carter m'envoya une photographie, ces arabesques ne sont pas des lettres, mais semblent avoir appartenu à la même tradition culturelle que le parchemin. Carter se disait toujours sur le point de résoudre le mystère, mais ne donnait jamais de détails. Il s'abandonna presque une fois à la poésie en parlant de l'ensemble de ses recherches. Il se pourrait, disait-il, que cette antique clé d'argent puisse ouvrir les portes successives qui nous empêchent de descendre librement les fameux corridors de l'espace et du temps jusqu'aux ultimes confins qu'aucun homme n'a traversés depuis que Shaddad, avec son terrifiant génie, construisit et cacha dans les sables de l'Arabie pétrée les dômes prodigieux et les minarets innombrables d'Irem aux milliers de colonnes. Des derviches à moitié morts de faim et des nomades devenus fous de soif sont revenus parler de ce monumental portail et de la main sculptée au-dessus de sa clé de voûte. Mais aucun homme ne l'a franchi et n'est revenu sur ses pas pour dire qu'à l'intérieur, ses empreintes sur le sable encombré de gravats attestaient de sa visite. La clé, supposait-il, était celle pour laquelle la gigantesque main sculptée se serrait en vain.
Une partie de l'œuvre qui est ouvertement... Aujourd'hui, on aime employer un petit peu le terme de Donsanien, hein, à propos de Donsani, qui était un écrivain que Lovecraft admirait. On va dire des textes qui se déroulent dans un monde, pour simplifier, je dirais, un peu merveilleux. Et Lovecraft aimait dire que certains de ses textes étaient inspirés très directement par ses rêves.
Il décrivait ses rêves et il m'a envoyé une nouvelle entière qui est parue depuis, Le clergyman maudit, qui est juste le récit d'un rêve. Et il a un récit tout à fait merveilleux.
1976.
D'une invasion de notre monde, d'abord par les rêves, l'appel de Cthulhu.
Jacques Berger.
C'est un récit qui fascine tellement qu'encore maintenant, 40 ans après la mort de Lovecraft, on écrit des suites. Il a visité Paris en compagnie d'Edgar Poe en rêve. Et alors ça pose un problème, parce qu'il a décrit le quartier de la rue de Bonton, le quartier de la rue de la Halloquire. Et il a décrit d'une part ces rues où les maisons d'un côté ou l'autre de la rue se rencontrent presque en ne laissant pas passer les lumières du côté de la rue Broca. Bon, il aurait pu le voir sur une photo, mais il décrit l'odeur particulière qui régnait avant qu'on ait enlevé le cuir, l'odeur du cuir en train de pourrir, qui est une odeur qui n'a pas été à ma connaissance décrite et qu'il a décrit exactement dans une nouvelle qui s'appelle La musique d'Eric Salo. J'étais tellement étonné que je lui ai écrit, avez-vous visité Paris? Il m'a répondu avec Edgar Poe en rêve.
Tant qu'il aurait inventé ce rêve où il visite Paris en compagnie d'Edgar Poe.
Voilà, je pense que ce n'est pas tellement Lovecraft qui l'a inventé, mais c'est Jacques Bergier qui l'a inventé.
Joseph Alterac.
C'est bien joué de la part de Jacques Bergier, c'est un bel hommage. Là, on peut en dire deux mots. Hein. Jacques Bergier est effectivement, on peut le dire, le découvreur de Lovecraft pour la France. Bergier avait lu Lovecraft avant-guerre dans Werther's, hein, qui était une des revues... où paraissaient les nouvelles de Lovecraft. Et on trouve dans cette revue des lettres de Jacques Bergier disant son admiration pour cet auteur. Je pense, sauf erreur, que c'est la seule lettre écrite par un Français jamais parue dans Werther's. Maintenant, Jacques Bergier était un grand mythomane, on l'aime aussi pour ça, et il a transformé ce courrier qu'il a envoyé à Werther's avec une correspondance avec Lovecraft qui, à mon sens, est totalement imaginaire. Elle se résume à quelques allusions, notamment cette allusion à une visite que Lovecraft aurait fait en rêve d'un quartier, d'une rue mal connue de Paris. Tout ceci est du pur pipeau, pour parler vulgairement, mais c'est tellement beau et tellement sympathique, et pour la mémoire de Bergier, on va faire semblant d'y croire.
Gilles Ménégaldo.
On a beaucoup parlé de la bibliothèque des ouvrages maudits de Lovecraft, donc le fameux Necronomicon, le livre du nom des morts, hein, littéralement, et donc qui est un ouvrage écrit par un arabe fou qui s'appelle Abdul Al-Hazred, et qui est donc la Bible Lovecraftienne, en quelque sorte, qui est enfermée dans les caves de l'université, et que va consulter la fameuse entité de l'abomination de Dunwich, qui va aller consulter en secret pour savoir justement comment faire, pour faire revenir ou rendre visible son jumeau. Alors là aussi, de manière à la peau, en quelque sorte, il construit un faux référent à partir de vraies références livresques, effectivement, c'est-à-dire qu'il mélange des livres qui existent et des livres qui n'existent pas. Ce qui fait que les livres qui n'existent pas ont la caution érudite des livres qui existent. Bon, après, l'autre source, effectivement, c'est ce qui se passe en termes de représentation, c'est-à-dire que les sources de savoir sont dans les livres, elles passent soit de manière accessible par simplement des descriptions d'entités, etc., des formules, mais elles passent aussi par ce qu'on appelait des messages cryptés. Donc il y a là, tout l'aspect du message crypté, du cryptogramme qu'on trouve dans le cas des Charles Dexter Ward, mais là encore, ça rappelle Edgar Poe et The Goldbug, le Scarabée d'or. Bon, bref, l'autre aspect aussi qui est très important chez Lovecraft, c'est la fresque. C'est-à-dire que la fresque qui décrit, par exemple, l'histoire des entités extraterrestres, comment ils sont arrivés sur Terre, comment il y a eu des guerres cosmiques sous la Terre. Tout ça, c'est décrit dans des fresques qu'on trouve effectivement sur les murs des cités dans les montagnes hallucinées. Et finalement, c'est ce niveau-là, on pourrait dire ensuite, qu'il y a les amulettes, les statuettes. C'est-à-dire que la pierre, littéralement, sort du mur et va s'inscrire dans des représentations beaucoup plus précises, comme par exemple la petite statuette que trouve l'inspecteur Le Grasse dans une île exotique, qui donc représente le dieu Cthulhu. Voilà. Et finalement, la dernière étape, c'est la matérialisation effective de ces créatures. Donc on passe par toutes ces formes de représentation. On en parle dans les livres, des livres plus ou moins cryptiques, eux-mêmes qui sont d'ailleurs plus ou moins fiable parce que ce sont des traductions d'ouvrages antérieurs ou parce qu'une partie a disparu, que l'ouvrage était en partie brûlé, etc. Et puis ensuite, on est confronté à la chose, à l'être innommable, comme à la fin de Cthulhu, où on compare le monstre Cthulhu qui émerge des flots à un polyphème. Et là, on voit très très bien aussi que Lovecraft, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais il y a une culture classique extrêmement solide et qu'il y a énormément de références mythologiques à la mythologie classique.
Je laisse derrière moi les rumeurs de la place. J'entre dans la bibliothèque. D'une manière presque physique, je sens le poids des livres, l'ambiance calme d'un ordre, le temps par magie disséqué et conservé. À droite et à gauche, absorbés dans leurs rêves lucides, se profilent à la lumière des lampes studieuses les visages momentanés des lecteurs.
Philippe Marlin, à vous regarder, vous semblez sain d'esprit. Et donc, qui pourrait supposer que non seulement vous avez ouvert le fameux Necronomicon, mais en plus vous en possédez, non pas un, mais plusieurs exemplaires. En fait, vous êtes un collectionneur de Necronomicon. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir si vous avez perdu déjà plusieurs fois la raison.
Bon, alors, avant de parler de ma santé mentale, mais je vais y revenir, je précise que je ne suis pas un collectionneur de Necronomicon, je suis un amateur. Alors, ce qui fait que le Necronomicon, outre Lovecraft, est pratiquement dès l'origine, enfin très vite, on l'a trouvé emprunté et utilisé par toute une série d'amis comme Clark Alston Smith, comme Robert Bloch ensuite, qui a écrit un bouquin fantastique qui s'appelle Retour à Arkham. Donc ça c'est la première génération, c'est le Necronomicon qui se balade entre les copains. Mais très vite, le cercle littéraire va s'étendre. Il va s'étendre dans sa dimension et il va s'étendre dans la durée. C'est-à-dire que des générations successives d'amateurs de Lovecraft vont se mettre à emprunter ce bouquin. En voilà un, par exemple, qui est le Necronomicon de Sprague de Caen. Alors, le titre, c'est « Al-Azif ». Parce que, d'après Lovecraft, le sous-titre, enfin là, du Necronomicon était Al-Azif. Al-Azif, c'est le bruit que font les insectes la nuit, qui, semble-t-il, évoque le cri du démon. Il est très marrant parce que vous avez une préface de quelques pages, écrite normalement, enfin en l'occurrence en anglais. Puis ensuite, vous avez des gribouillis absolument illisibles qui sont écrites dans une langue sémitique qui est le duriac. Donc voilà un exemple de Necronomicon absolument invraisemblable. On achète un livre qui est illisible, enfin à quatre pages près, mais vous avez un Necronomicon. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que le Necronomicon va finalement dépasser la stricte sphère littéraire pour toucher ce qu'on appelle les barjots. Et alors, il y a toute une série d'individus qui vont se mettre à faire des Necronomicons, mais beaucoup moins sous forme de clin d'œil littéraire pour faire croire aux copains que, mais vraiment pour croire et pour pratiquer. Le Necronomicon serait passé entre les mains d'un alchimiste et d'un magicien célèbre, à savoir John Dee. Et que John Dee l'aurait utilisé, elle l'aurait crypté. Et le cryptage du Necronomicon, c'est le fameux manuscrit Voynich, qui lui, contrairement au Necronomicon, existe vraiment. Alors, un des plus célèbres Necronomicon barjots, c'est celui-là. C'est le Necronomicon de Simon. Voilà, vous en avez deux éditions. Alors, le Necronomicon de Simon, il est tellement important que vous avez eu des petits fascicules annexes pour le pratiquer de façon efficace. Voilà encore un guide de pratique du Necronomicon. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que finalement, ça va se retrouver dans de l'ésotérisme noir. Et l'ésotérisme noir qu'on appelle le satanisme, puisque un sataniste américain assez célèbre qui s'appelle Anton LaVey l'a réutilisé dans sa Bible satanique.
Dans le dédale labyrinthique et clos de la bibliothèque, au long des rangées infinies de livres, les manuscrits interdits de Lovecraft côtoient peut-être les livres impossibles de Borges. La reliure en peau humaine du Necronomicon accolée aux livres de sable. Les traités des nécromants dialoguent sans doute dans le silence des travées poussiéreuses avec les textes hérétiques. Au plein jour épanoui de la culture classique, où les œuvres de Sophocle, Dante et Shakespeare s'allient aux traités d'astrophysique et aux histoires des empires, succède peu à peu la nuit légendaire des incunables maléfiques. Traités et autres codex, écrit dans l'ennemi parallèle des persécutions, des sabbats et des sacrifices.
Alors, après les barjots, une autre famille s'est emparée du Necronomicon, qui est une famille là très, très sympathique à mes yeux. C'est la famille des rôlistes, c'est-à-dire des joueurs de jeux de rôle.
Philippe Marlin.
Et donc, vous avez ici un certain nombre de pièces qui sont des pièces extraordinaires, puisque ce sont des objets qui ont été créés par des joueurs de jeux de rôle. Donc ça, c'est des pièces uniques, c'est-à-dire c'est un club de copains qui jouent à l'appel de Cthulhu et qui, pour leur jeu, ont besoin d'un Necronomicon, donc ils vont créer leur Necronomicon. Alors j'en ai un certain nombre comme ça. Donc celui-là, avec une couverture métallique, en voilà un. J'en ai d'autres plus... plus people sur des essais de faux parchemins anciens.
Avec les taches de sang qui traînent encore aussi.
Voilà. Et j'en ai même en rouleau.
Ah oui. Génie à souhait.
Voilà. J'ai même des Necronomicon assez extraordinaires. Et ce Necronomicon, il est vierge, il est blanc. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, vous avez un Necronomicon qui est une pièce unique, que je suis le seul à avoir, même si je ne suis pas un collectionneur fou, c'est que j'ai un ami qui est sculpteur en Bretagne, et je lui ai demandé de me faire un Necronomicon en pierre.
Feuillets oubliés que le vent de l'océan fait voler au-dessus des toits de Salem et disperse dans les confins marécageux de la Nouvelle-Angleterre. À charge pour nous d'imaginer le visage inquiet de l'archiviste, le jour où un lecteur timide lui réclama avec l'insistance fébrile de l'érudit.
De masticatione mortuorum in tumulis, de Michael Roft.
Détruit, brûlé, introuvable.
Borellus.
Détruit, brûlé, introuvable.
Magia postuma, de Charles Ferdinand de Schertz.
Détruit, brûlé, introuvable.
Image du monde, de Gauthier de Metz.
Détruit, brûlé, introuvable.
Le livre des envahisseurs.
Détruit, brûlé, introuvable.
Necronomicon, de l'arabe démon Abdul Al-Azred.
Détruit, brûlé, introuvable.
Les livres de Thoth.
Détruit, brûlé, introuvable.
Je pense que Lovecraft s'est beaucoup amusé à construire une œuvre comme ça par petites touches, en ajoutant des choses de lui-même ou des fois suite à la suggestion de ses nombreux amis et correspondants. C'est un jeu pour lui. Hein. Il ne faut pas, à mon sens, essayer d'imaginer une cohérence dans le panthéon de créatures plus ou moins extraterrestres, plus ou moins monstrueuses, plus ou moins... surnaturel. Je ne crois pas qu'il faille y chercher une cohérence générale. Il y a une tonalité générale, ça c'est sûr. On va dire que ce sont des variations.
J'admets que je suis très intéressé par la relation que j'ai avec les choses qui m'entourent. Relation de temps, relation d'espace et relation causale. Je désire savoir approximativement ce qu'est ma vie en termes d'histoire humaine, terrestre, solaire, cosmique, la place que j'occupe dans le système terrestre, solaire, cosmique, et par-dessus tout, comment je peux bien être lié au système général, de quelle façon, sous l'effet de quel agent, et jusqu'à quel point les forces qui guident visiblement la création agissent sur moi et gouvernent mon existence. Et s'il existe des forces moins visibles, je désire les connaître et savoir quel rapport elles ont avec moi. Folie, je vous entends déjà dire. Sans aucun doute.
D'accord, donc pas de parascience.
Non, pas du tout.
Pour vous, Michel Meurger, mais pas non plus de dimension supplémentaire ni d'entité divine.
Lovecraft, dans sa correspondance, a été très clair. C'est d'abord un écrivain. Il dit d'ailleurs très clairement qu'à certains correspondants, qu'il utilise des fadaises, il utilise ce terme théosophique et autres, mais de façon purement instrumentale. À des fins esthétiques, si vous voulez. D'autre part, il n'y a aucunement un rapport à la religion, au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire que Lovecraft avait des positions matérialistes très nettes. Il s'en est toujours ouvert dans sa correspondance. Donc, il n'y a aucun doute à cet aspect. Ceci dit, là encore, Derleff a fait un sale boulot parce qu'effectivement, les pastiches, à partir de Derleff, lui redonnent ce halo, sinon religieux, du moins, moi, je dirais souvent néo-occultiste. Oui. Ça, c'est vrai. Et souvent, les gens qui se sont inspirés plus des recueils de pastiches publiés dans la maison d'édition de Derleff, Arkham House, effectivement, ont suivi dans cette direction, ont développé de façon outrancière le côté sorcellerie, le côté occultiste, alors que si vous regardez quantitativement, ça occupe une très petite place dans l'œuvre proprement lovecraftienne. Et secondaire.
Je crois que Lovecraft joue des deux stratégies selon les textes et parfois dans l'espace de la même nouvelle, on peut trouver des éléments effectivement extrêmement précis de description.
Gilles Ménégaldo.
Quasiment anthropologique et à d'autres moments, au contraire, on va jouer au contraire sur le trouble de la perception, sur l'interprétation de la perception liée à l'état par exemple psychique du narrateur, à la folie potentielle, etc. Et donc je crois que Lovecraft joue sur ces deux types d'écriture qui sont une ligne de partage en quelque sorte entre deux formes de fantastique qui peuvent être effectivement radicalement différentes, mais qui peuvent être aussi totalement associées en symbiose. Et je crois que Lovecraft arrive à maintenir les deux. Alors, ce qu'on peut, je mettrai un bémol en disant simplement que Lovecraft en rajoute parfois un peu trop dans ce style hyperbolique, dans cette écriture de l'excès. Et donc effectivement, c'est un dernier point qu'il faudrait dire, c'est qu'il se gargarise de ça, il s'hypnotise lui-même en quelque sorte avec sa propre écriture, tout en étant relativement tout en ayant une certaine distance ironique ou humoristique, mais qui n'est pas très forcément détectable dans ces textes. Hein. Ce que dire, bon, évidemment, si on connaît bien Lovecraft, on voit bien qu'il y a des clins d'œil, de l'humour qui renvoie notamment à son propre cercle de lecteurs proches. Mais en fait, c'est surtout en lisant sa correspondance qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'humour et d'ironie chez Lovecraft.
Alors bon, c'est vrai, on a avancé ces chiffres de plus de 100 000 lettres. Bon, peut-être exagère-t-on, mais enfin, même si ce nombre est peut-être exagéré, ces lettres se comptent véritablement par milliers. Lovecraft avait un nombre extraordinaire de correspondants. Et une anecdote amusante.
Joseph Alterac.
Plusieurs années après sa mort, deux passionnés de Lovecraft sont dans un train aux États-Unis et discutent entre eux de Lovecraft et comparent leurs souvenirs en fonction des lettres qu'ils envoyaient, que le vieux gentleman, le prétendu vieux gentleman, leur envoyait. Et alors qu'ils sont en train de parler, quelqu'un qui est au fond du wagon, qui les entend, s'approche d'eux et leur dit: messieurs, moi aussi j'ai correspondu avec Lovecraft. Ça montre bien qu'on pouvait tomber sur des correspondants de Lovecraft comme ça par hasard dans un wagon de chemin de fer, tellement ils étaient nombreux. C'est peut-être la taille, disons, des lettres, de certaines lettres, moi, qui m'a le plus impressionné. Il passait son temps à ça. C'est assez fascinant.
C'était Une vie, une œuvre, Howard Phillips Lovecraft, Lettre de Providence.
À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues couvertes de mousse ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent et leurs flancs recouverts de bardeaux bombent dangereusement sous les toits bas à double pente.
Avec Christophe Thiel, directeur des éditions Malpertuis, Joseph Alterac, directeur des cahiers d'études lovecraftiennes, Michel Meurger, auteur de Lovecraft et la science-fiction publié chez Ancrage, Gilles Ménégaldo, qui a dirigé le colloque de Cerisy consacré à Lovecraft, Jackie Ferjeau, auteur de Moi, Howard Phillips Lovecraft, édition de L'Œil du Sphinx, et Philippe Marlin, directeur du bulletin et des archives de l'université de Miskatonic.
Vous avez trouvé ? Faites voir.
Non, c'est rien, je me suis trompé.
C'est la musique, montrez-moi.
Archivina, Sophie Gillery. Lecture, Christophe Lemay. Extrait des courts-métrages de Marc-Thomas Charlet. Remerciements à l'ensemble Tristan d'Ardenne, dirigé par Hervé Delahaye.
Et voilà. Je le sens. La musique les attire.
Prise de son et mixage, Bernard Laniel et Serge Ristich. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Une émission de Lydia Benitzrak.
Arrêtez, c'est ridicule. Il n'y a rien derrière cette fenêtre.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaire, réécoute podcast sur franceculture.fr. Demain à 17h dans Une vie, une œuvre, seconde exploration au-delà des frontières du réel avec Philippe Cadic.